On va voir ça ce matin, donc c'est dans les Actes. Bon, je vais le lire, puis vous avez tous vos Bibles. Il n'y a pas de problème. Hein? Putain, il y en a beaucoup avec les bras croisés quand même. Bon. Et un homme à Lystre, impotent des pieds, se tenait assis, perclus dès sa naissance. Il n'avait jamais marché. Cet homme écoutait parler Paul qui, ayant arrêté son regard sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il sauta et il marchait. Or, la foule ayant vu ce que Paul avait fait, éleva la voix, disant en langue caonienne, oui, « Les dieux s'étant fait semblables aux hommes sont descendus vers nous, et ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'est lui qui portait la parole. » Et le sacrificateur de Jupiter, qui est à l'entrée de la ville, ayant amené devant la porte des taureaux avec des guirlandes, ambiance, voulait ainsi que la foule offrît un sacrifice. Mais les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris, déchirèrent leurs vêtements, s'élancèrent dans la foule, criant et disant, « Hommes, pourquoi faites-vous cela ? Nous aussi, nous sommes des hommes, sujets aux mêmes infirmités que vous, et nous vous prêchons l'évangile, qui vous dit de vous détourner de ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre et la mer et toutes les choses qui y sont. Ce Dieu, dans les générations passées, a laissé toutes les nations marcher dans leur voie, quoiqu'il ne soit point laissé lui-même sans témoignage, lui qui faisait du bien, qui vous envoyait du ciel les pluies, les saisons fertiles, qui vous donnait la nourriture avec abondance, remplissait vos cœurs de joie. Et en disant cela, à peine purent-ils empêcher la foule de leur sacrifier. Mais d'Antioche et d'Iconome survinrent des Juifs, changement d'ambiance, qui après avoir gagné la foule et lapidé Paul, super, le traînèrent hors de la ville, croyant qu'il était mort. Mais comme les disciples s'étaient rangés en cercle autour de lui, il se releva et entra dans la ville. Et le lendemain, il s'en alla avec Barnabas et Derbe. À Derbe. Après, on continuera. Donc voilà, c'est une histoire. Elle est super. Elle se passe dans le livre des Actes. Et je reviendrai sur des passages au cas où vous n'en souveniez pas. Voilà. Donc, le livre des Actes, c'est quoi ? C'est le livre des premiers triomphes de l'Église. C'est le livre des persécutions aussi, des premières disputes. Les Actes, on pourrait dire, c'est la genèse du Nouveau Testament. C'est le début de quelque chose. Alors, il est à la fois abondant, concis, rapide, chargé de faits, comme cette histoire-là qu'il raconte. Il se passe sur 30 ans. Donc, beaucoup d'églises ont été fondées, beaucoup de personnes, dans des lieux très différents, ont été touchées par la grâce de Dieu. Mais dans toutes ces merveilles, n'oubliez pas les emprisonnements, les tempêtes, les lapidations, les naufrages, les martyrs, les miracles quand même, et les jugements. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Rappelez-vous, il y a un passage dans le livre d'Hébreu qui dit, vous savez, quand il parle dans Hébreu 11 des hommes de foi, à un moment donné, il dit, vous vous souvenez ce qu'on sciait. Quand même, hein. Sciait, quoi. Je ne sais pas, mais ça... Donc, ce passage à Lystre, c'est un concentré de la vie chrétienne, ce qu'on vient de lire. Voilà. Et ce matin, j'ai eu à cœur de rappeler ce que signifie une vie chrétienne pleinement vécue. Alors, première chose, à Lystre, la bonne nouvelle est annoncée. L'apôtre Paul prêche. Et un malade est guéri. Là, une ville, essayez d'imaginer la scène, ivre d'enthousiasme. Je veux dire, c'est le délire. Et d'un coup, les apôtres vont être adorés comme des dieux. Et après, traités comme des moins que rien. Alors, je ne sais pas combien il y a eu de temps entre les deux, mais la foule est changeante, hein, rapidement apparemment. Hein. Voilà. Et malgré cela, on va voir qu'il y a les fruits, qu'il y a des conversions. Voilà. Et moi, je crois qu'il y a des principes de vie là-dedans à recevoir. Paul et Barnabas, ils ont laissé une triple trace de leur passage. Une guérison, une panique totale, hein, puisque ça part de partout, là. Et puis, ce qu'on appelle une œuvre de conversion et de salut. Voilà, triple puissance de l'évangile pour guérir, pour troubler, pour sauver. Hein? Et ça, ça n'a pas changé depuis 2000 ans. Et c'est ce qu'on peut vivre. C'est notre mission dans la ville de Nîmes. Et aux alentours, évidemment, ou même plus loin. Hein. Donc voilà, on va reprendre ces trois principes. Tout d'abord, la guérison. Là, le passage s'ouvre par l'histoire d'une guérison miraculeuse. Un homme, il est dit impotent des pieds, perclus dès sa naissance. Donc, il n'a jamais marché. Hein. Donc, c'est clair que cet homme avait de graves problèmes de santé. Et en plus, vu comme c'est précisé, qui a écrit le livre des Actes ? C'est Luc. Et Luc, c'est un docteur. Donc, on peut lui faire confiance sur la qualité de son diagnostic. Hein. Et puis, sur un seul mot de l'apôtre Paul, il recouvre la force et il marche. Et tout le monde est confondu. Voilà. Premier fruit du ministère de Paul à l'Istre, pendant sa prédication de l'Évangile. Hein, la guérison d'un homme. C'est un bienfait dans l'ordre humain. C'est un bienfait. Paul prêche et voit que cet homme a la foi. C'est intéressant, ça, comme passage. Il est dit, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il sauta et il marchait. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous évangélisez quelqu'un et que vous sentez qu'il a la foi. Moi, ça m'est arrivé une fois. J'étais pas là, mais c'était pareil, quoi. Je prêchais. Et puis il y avait un homme devant moi. Il était venu avec sa femme. Sa femme avait insisté pour qu'il vienne. Et puis je ne sais pas pourquoi. Je parlais. Puis à un moment donné, je connaissais son prénom, je lui ai dit, et je lui ai dit, je crois que le Seigneur veut te sauver. Je crois que tu veux donner ton cœur au Seigneur, ou un truc comme ça. Et le gars, il a dit, oui, c'est vrai. Il s'est écroulé, il pleurait et tout. Même moi, honnêtement, ça m'a plus fait peur à moi, entre parenthèses. Je me suis dit, putain. J'avais vu sa foi. Et là, l'apôtre Paul, tout simplement, il avait vu qu'il avait la foi pour être guéri. Donc, c'est vraiment intéressant. Hein. Alors, ce n'est pas écrit, mais je pense qu'il l'a reçu. Et la preuve, c'est que cet homme a été guéri. C'est très simple, hein, la parole de Dieu. Il a vu, il lui a dit « sois guéri », et forcément, comme ça venait du Seigneur, cet homme a été guéri. Des fois, on se complique la vie. Hein. Voilà. Donc ça a été surnaturel. Puis des fois dans le milieu chrétien, on a parfois peur du miracle. Hein. Alors, pour se rassurer, il me semble certains vont dire que les miracles c'était avant, que c'était du temps des apôtres, que ça servait de signe, hein, mais que ce temps est terminé. Bon, il y a une catégorie de chrétiens qui pensent cela. Voilà. Et à l'inverse, d'autres vont dire que non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'avant, il y avait plein de miracles. Donc, s'il n'y a plus de miracles, c'est qu'on manque de foi. Qui a raison ? Mais moi, je voudrais répondre aux deux camps. Ne me lapidez pas. Le miracle, ce n'est pas une fin en soi. C'est juste ça. Le miracle, c'est un moyen que le Seigneur utilise dans sa grâce, par amour, dans un but précis. Et ce but lui appartient. On va être guéri, on ne va pas être guéri. Mais il y a toujours des guérisons. Ça, on ne doit jamais en douter. Bonaffaire, il a écrit ceci. C'est magnifique. Le christianisme n'est pas une religion sans entrailles, hein, sans tripes, quoi. C'est une religion essentiellement humaine qui a pitié dans nos faiblesses, qui a pitié de ses souffrances morales, mais qui a pitié aussi de ses souffrances physiques. Voilà. Jésus s'est autant ému de compassion pour le paralytique, les aveugles, les lépreux, que pour les multitudes semblables à des brebis qui n'ont point de berger. L'équilibre, il est là. Il a guéri les corps, mais il a sauvé les âmes. Je crois que c'est plein de bon sens, quoi. Voilà. Donc les apôtres, comme le Seigneur, ils sont en empathie aux souffrances de l'humanité. Paul guérit l'impotent. Par exemple, dans l'assemblée de Millet, vous savez, il y a un passage où il y a... Ça fait pas, c'est comme une réunion maison, vous savez. Puis il y a un gars, il est assis sur la fenêtre, là. Puis il s'endort. Il tombe. Il meurt. Paul, il dit non, vous inquiétez pas. Il descend, il prie, pff, le gars se réveille. Il y a de, sacré, ça devait être un choc quand même. Hein. Vous imaginez à une réunion. Voilà. Mais aussi et tout autant, on le voit en Jésus, il aime, il plaint, il console, il soulage. Tout son ministère, il n'a fait que ça. Par sa présence, parfois, par une parole. Voilà. Donc, restons ouverts, parce que le Seigneur peut nous donner une personne qui a la foi pour être guérie, et nous le verrons, nous le saurons, nous le recevrons. Avançons-nous, prions pour lui, simplement. Mais en même temps, et c'est aussi important, sachons voir la détresse de l'autre, qui s'exprimera différemment, sa souffrance, son besoin d'amour, son besoin de prière. Et ça, ça amènera des prémices de guérison, des prémices surtout de salut. Hein ? Le miracle, c'est un acte de bonté, c'est un acte de miséricorde de la part du Seigneur Jésus. Il voit nos misères à un temps donné et font partie de ceux qui annoncent l'Évangile. Parce que quand une personne est guérie sur terre, il y a de la joie. Il y a de la joie pour la personne, il y a de la joie pour la famille, il y a de la joie pour ses amis. C'est un bonheur, hein, on est d'accord. Ça, c'est vraiment un bonheur. Mais n'oublions pas autre chose. Le Seigneur Jésus, il a dit quoi ? Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, pas pour une seule personne qui est guérie, un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc c'est quand même toujours le salut des âmes qui est le vrai message. Vous voyez ? Mais le miracle est bienvenu. Hein ? Qui s'en plaindra ? Une autre remarque, le livre des actes, comme j'ai dit tout à l'heure, il est sur 30 ans. Alors on peut dire, waouh, c'est long, et en même temps, c'est très court, 30 ans. Donc, il y a beaucoup de guérisons physiques dans le livre des actes, mais honnêtement, ramené à 30 ans, pas tant que ça. Je ne vous ai pas compté, hein, mais il n'y en a pas tant que ça. Hein. Par contre, si on compare, et il n'y a aucune comparaison, il y a des milliers de conversions dans le livre des actes. Il y a la naissance de plein d'églises. Il y a la naissance de la parole qui se déverse dans toute l'Asie mineure. Il y a des mouvements qui se structurent. Il y a des églises qui grandissent. Et ça, c'est ça qui a changé le monde. Ça, ça a changé le monde depuis 2000 ans. Et ça continue. Voilà. Et c'est encore plus fort qu'une guérison. Voilà. Donc c'est important. Voilà. La première mission de l'Église, la première que le monde doit nous reconnaître, c'est celle de l'amour, de la sollicitude, de la compassion pour le pauvre, le malade et l'affligé. Hein. Par exemple, vous vous rappelez dans Acte aussi, quand Paul, il est pas allé voir, il a démarré son ministère sans voir les boss de l'époque, quoi. Hein. Pierre, Paul, Jacques. Il va les voir et il est dit qu'il a fait une main d'association et l'apôtre Jacques, qu'est-ce qu'il lui dit ? Voilà, souviens-toi des pauvres. C'est marrant. Donc ça, c'est aussi une marque importante en tant que chrétien. Le pauvre, le malade, l'affligé. Notre responsabilité, ça semble énorme, c'est de sauver le monde. Il aurait pu en choisir d'autres. C'est notre responsabilité. Hein. Parce que la proclamation de l'Évangile, c'est la seule chose qui a le pouvoir de donner la vie. La seule. Il n'y en aura pas d'autre. Ensuite, on continue. Le deuxième effet provoqué par Paul et Barnabas à Lystre, c'est l'agitation, la panique, le trouble. Je pense à autre chose, mais vous voyez quoi. C'est la panique. Donc, à la vue de cette guérison, les habitants de Lystre, ils réagissent. Et qu'est-ce qu'ils réagissent comment ? Ils les prennent pour des dieux. Mercure, Jupiter. Deux beaux dieux. Et qu'est-ce qu'on fait ? On appelle le sacrificateur qui arrive, avec les taureaux. Il avait son stock derrière. Il arrive. Il veut les... Hein ? Vous voyez la scène, quoi. C'est comme une grosse feria. Hein ? Les taureaux arrivent, là. On leur met des fleurs. Hein ? Et là, il y a un fait qui doit nous inspirer, nous servir d'exemple. Regardons la réaction de Paul et Barnabas. C'est super intéressant. Et c'est là qu'on va reconnaître si ce sont des serviteurs de Dieu ou des faiseurs de religion, ou des qui ne cherchent que succès, gloire, vous savez. Voilà. Qui se servent du ciel au profit d'une domination terrestre. Ils se jettent, nous dit le texte, au milieu de la multitude, ils déchirent leurs vêtements en signe d'indignation, ils s'écrient avec force, « Ô homme, pourquoi faites-vous cela ? On n'est que des hommes, on est sujets aux mêmes infirmités, et nous vous annonçons qu'en quittant ces choses vaines, vous vous convertissiez au Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre et toutes les choses qui y sont. » Eux, ils restent dans leur message. Ils auraient pu être flattés, c'est flatteur. Hein, les gens vous adulent. C'est flatteur. On peut tomber dans ce genre de piège. Ils n'y tombent pas. Ça aussi, c'est à remarquer. Mais une foule exaltée, elle ne se laisse pas apaiser. Hein, vous imaginez là aussi la scène. Il y a une foule, ils sont au milieu, ils crient ça, très bien. Et peut-être que ce n'est pas très performant en termes d'écoute. Peut-être ça crie, ça... Voilà. Ils ont mis la panique dans la ville. Voilà. On imagine un bruit pas possible, des gens qui hurlent, etc. Ça, c'est le deuxième effet de la prédication. Ils ont mis le trouble. Je préfère ce mot, c'est être troublé, parce que ça fait penser à... Quand Jésus, il est écrit, « Lorsque Jésus naquit à Bethléem, le roi Hérode en fut troublé. » Et tout Jérusalem avec lui. Voilà. Le premier effet de l'apparition du Seigneur sur cette terre, c'est que il commence par le troubler. Il vient sauver le monde, mais d'abord il commence à troubler le monde. Le monde est bousculé, dérangé. Ça commence par le roi Hérode. Parce qu'il vient détruire sa fausse paix. Vous savez, Jésus, pas mal de fois, il dit « Je ne suis pas venu vous donner la paix. Non, non, je suis venu donner autre chose. » La division, il y a tout un passage sur ce sujet. Hein, parce qu'il veut donner la vraie paix. Donc, voilà. Le monde est endormi dans son oubli de Dieu, dans son indifférence. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut troubler ce sommeil. C'est la méthode de Paul. Non, c'est l'effet naturel, inévitable, de sa présence, parce qu'il est plein de Christ et qu'il annonce l'Évangile. Et quand vous annoncez l'Évangile, vous troublez, vous dérangez. Hein, la ville de Lystre, elle a été troublée. Et ensuite, celle d'Iconie, d'Antioche, la ville de Philippe. Il troublera Athènes, Éphèse et sa superstition. Il troublera Agrippa, il troublera Festus, le roi, le procureur. Il les troublera partout, parce que là où est Paul, là est prêché Jésus. Et quand Jésus est prêché, c'est le maître qui apparaît. C'est lui qui se dresse devant ses consciences. Hein ? Alors moi, je me demande, en préparant ce message, est-ce qu'on trouble ce monde ? Est-ce qu'on le dérange ? C'est une vraie question, hein ? Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Mais en tout cas, ne me répondez pas, certains, que les temps ont changé. Avant, ce n'était pas pareil. Certainement. Avant, ce n'était pas pareil. Mais... quand même. Hein, moi, quand j'étais jeune chrétien, je vous l'ai déjà dit, mais déjà, en préparant, je pensais à la feria de Nîmes. Moi, là, j'y étais pas. Mais quand l'assemblée, à la pégoulade tournait dans un sens, l'assemblée chrétienne de Nîmes dans un autre. Fallait le faire. Hein. Des panneaux Jésus. Hein, fallait le faire. Ça a dû troubler. Hein. Ou ça aussi, je vous l'ai dit, mais mon frère, j'avais un frère, il avait un Ford Transit. À l'époque, c'était là, comme ça, on s'entassait dedans. Et il y avait un autocollant qui disait « Je lis la Bible, la parole de Dieu ». C'était troublant. Hein. Ma mère, elle était troublée, je vous le dis. Dans le village, c'est votre fils ? Non, c'est pas mon fils. Voilà, alors on ne va pas racheter les autocollants en stock, les remettre ou quoi que ce soit. C'était un temps, aujourd'hui c'est un autre temps. Hein. Mais quand même, Mais quand même, c'était quand même une période, et ça on ne peut pas le nier, ça c'est pour vous encourager les jeunes, c'était une période de conversion quand même, hein, de grande conversion. Il y en avait un paquet quand même. Donc, ça semblait fou, mais peut-être que ce n'était pas fou en fait. Hein. Je vous laisse y réfléchir et puis trouver nos systèmes d'aujourd'hui. Hein. On a troublé le monde à ce moment-là, et ce monde a répondu, pour certains, par la foi. Les gens sont convertis, moi le premier en tout cas. Hein. Alors, troublons-nous ce monde, étonnons-nous ce monde, dérangeons-nous ce monde. Je n'ai pas de réponse, chacun a la sienne. Mais je dirais un truc, pas assez en tout cas, ça c'est sûr, pas assez. Mais en même temps, je crois que oui, parce que là où les temps peut-être ont changé, je crois que peut-être c'est l'évangélisation peut-être plus individuelle, on témoigne à l'autre dans son travail, dans ses amis, dans peu importe. Alors, chaque fois qu'on n'hésite pas à témoigner du Seigneur, chaque fois que dans nos attitudes, nos comportements, eh bien, on implante le trouble dans une personne. Vous voyez, le trouble dans le bon sens, hein, le trouble à salut, pas le trouble, oh là là, il est fou, lui. Non, non. Hein. Voilà. Donc moi, je vous parle pas de devenir, encore une fois, excentrique. Ça, c'est pas une preuve. Hein. Il y a quelqu'un, à l'époque aussi, bon, il avait lu un verset qui disait de il mangeait la parole de Dieu. Ben lui, il l'a mangé. Quoi. Ça, c'est spécial, quand même. Hein. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait eu beaucoup de fruits. Vous voyez, il y a une nuance entre troublé et troublé. C'est important. Hein. Parce qu'il y aura un fruit dans ce genre de trouble. Hein. Mais pas celui escompté. Hein. Ça c'est certain. Hein. On trouble le monde chaque fois qu'on parle de notre foi ou que nos attitudes, nos œuvres parlent de notre foi. Et ça le trouble parce que c'est surnaturel, tout simplement. Parce que c'est pas normal. Parce que c'est pas normal dans des situations de se comporter d'une manière que le Seigneur nous met à cœur. Et comme c'est pas normal, ça dérange, ça trouble, ça, ce que vous voulez, peu importe. Ça interroge. Et quand les gens sont interrogés, c'est comme un cœur qui s'ouvre à moitié. C'est juste une porte qui s'entrouvre. Et le travail du Seigneur peut commencer. Hein ? Voilà. Donc le royaume de Dieu, il est troublant, il est confondant, parce qu'il accepte la faiblesse humaine. Ce n'est pas des super-héros, c'est dans la faiblesse. Hein. On ne vient pas au Seigneur de la vie parce qu'on est les plus forts. Hein. Souvenez-vous, quand on vous a annoncé l'évangile, votre première réaction, pour la majorité, hein, ne venez pas me voir à la fin, il y a toujours des exceptions, hein, ça a été le trouble. Hein. Moi, je me rappelle quand c'était dans la cour à Codonian, là, il y avait un groupe québécois qui chantait. Et puis après, il y avait Michel, le père de Christophe, qui a prêché l'évangile. Ben, ça m'a amené un trouble. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte? C'est de la folie. C'est pas... Mais je sentais que quelque chose me touchait. Quoi. Voilà. Maintenant, je n'ai pas levé la main en disant oui, ça ne risquait pas. Je rentrais chez moi et puis ça m'a travaillé toute la nuit. Voilà, j'étais troublé. Et je crois que quand on rencontre le Seigneur, on est troublé. Chacun à sa manière, chacun dans son style, mais il y a quelque chose qui nous a percuté, qui nous dérange, parce que c'est pas normal. Et quand c'est pas normal, c'est bon signe. Quand on est chrétien, hein, c'est autre chose. Hein. Voilà. Parce que ça touche au plus profond de qui nous sommes. Hein. Je pensais aussi à la maison des parents. Hein. C'est vraiment là aussi un exemple. Vous allez voir ce livre d'or, hein, le nombre de personnes touchées, dérangées, troublées. Déjà, vous savez, un truc qui dérange les gens à la maison des parents, dérange, vous comprenez ce que je veux dire, hein, c'est que quand on leur dit que la maison des parents, elle a été construite par nous, payée par nous, gratuitement, façon de parler, hein, ça, je vous garantis que les gens sont touchés. Hein. Ensuite, les gens sont touchés à l'époque avec Martine, avec Jean-Louis, avec Rennes, et puis aujourd'hui avec Béatrice, avec Sylvie, avec Marie, bientôt avec Elisabeth. vous lisez et vous voyez que les gens sont touchés, dérangés, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais qu'est-ce que c'est ce truc ? Voilà. Ils ne comprennent pas, mais ils sont touchés. L'évangile ouvre leur cœur. Hein ? Puis il y en a aussi qui vont au mazet de prière. Donc tout ça, on ne se rend pas compte, mais c'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie où la parole de Dieu est prêchée d'une manière différente, mais elle est prêchée. Et ça, c'est merveilleux. Hein ? Et donc, dans ces messages d'amour, vous lirez du trouble. Voilà. Parce qu'ils ne trouvent pas ça normal. Mais ça, c'est bien. Hein ? Ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Et quand c'est surnaturel, les gens sont troublés. Bon, ce mot, il va falloir que j'en trouve un autre parce qu'il me trouble. Voilà. Voilà. Après, en revenant au texte, qu'est-ce qu'on constate ? Qu'après la foule en délire à cause du miracle pour en faire des dieux, ben, il y a une foule en délire, et certainement les mêmes, pour lapider l'apôtre Paul quand même. Lapider. Pas juste une petite pierre. Hein. Ils l'ont lapidé, quoi. 5 minutes avant, c'était Dieu. 5 minutes après, ils vous lapident. Vous voulez faire confiance à la foule, vous ? Ben, pas moi. Hein. Voilà, la foule, là, elle est moins rigolote. Hein. C'est la deuxième fois sur les 5 fois que l'apôtre Paul sera lapidé. Quand même. Hein. Alors, les effets du miracle, on peut dire qu'ils sont brefs. Franchement. La personne guérie, elle, elle guérit. Elle, c'est pas bref pour elle, ça va continuer. Hein ? Et ça, c'est le troisième effet du passage de Paul à Lystre. Après le miracle, après la panique, la conversion des personnes. Le but et la raison que Paul poursuivait, c'est le fruit nécessaire à une foi vivante. Donc, mais avant cela, imaginez, Paul, il a été, on l'a caillassé, quoi, mais un peu fort. On l'a mis dehors de la ville, donc quand même, symboliquement, c'est fort. Il est mort, ou bien amoché, peu importe. En tout cas, et juste après, il se relève et il retourne en ville. Moi, j'aime le cinéma. Non, mais franchement, ça fait un western, non ? Le gars, il se relève, il y retourne. Il faut être fou pour y retourner. Les gens normaux, ils s'en vont, hein. On l'a lapidé, on ne l'a pas juste dit « Allez, tu t'en vas ». Non, on l'a massacré, quoi. Il se lève, il y retourne. Chapeau. Hein ? Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il retourne et il prêche la bonne nouvelle, la parole de Dieu, jusqu'au soir. Et le lendemain, il part. Donc il n'a pas hésité, il est retourné. Hein ? Donc des personnes ont été touchées. Donc déjà, le miraculé, évidemment, puisqu'il avait la foi pour être guéri. Donc c'était déjà une conversion, parce que c'est le même mot que pour être guéri que pour être sauvé. Il avait la foi pour être sauvé, donc c'est pareil. On sait aussi que Timothée est dans la foule, certainement, donc. Et on voit après, il est dit, ils retournèrent à Lystre, affermissant les âmes des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et leur représentant que c'est par beaucoup d'afflictions qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ils sont retournés à Lystre, c'est parce qu'il y avait des disciples. Donc, des gens se sont convertis. Et ils sont convertis parce qu'ils ont vu un homme, certainement, on peut l'imaginer, qui avait tellement de convictions que malgré ce qu'il venait de subir, il est retourné pour annoncer l'évangile. Et forcément, il y a des fruits. Hein. Forcément. C'est un comportement extraordinaire de l'apôtre Paul et de Barnabas. Hein. Voilà. Leur doctrine, elle est simple. Convertissez-vous des choses vaines au Dieu vivant. Changez. Retournez-vous. Mettez le mot que vous voulez. La conversion, disait Luther, c'est le retour courageux de l'âme à Dieu par Jésus-Christ, l'abandon de la vie naturelle assujettie au monde et au péché, et l'entrée dans une vie nouvelle dont Dieu est le maître. C'est beau, hein ? Il est fort, ce... Donc voilà. Donc, Paul, il va prêcher à Lystre, à Antioche, comme à Corinthe, comme à Éphèse, comme à Athènes, la conversion de Dieu, l'appel à ce que des âmes soient sauvées. C'est son ministère. Hein. Alors, ce matin, ben, on veut voir des conversions, bien sûr. On doit faire cette pensée notre quotidien. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est inexplicable. C'est inexplicable. Je connais quelqu'un, alors je n'ai pas la prétention de dire il est converti, pas converti, mais c'est quelqu'un qui a vraiment du mal à comment dire, il y a des choses qu'il ne comprend pas, il parle toujours de l'injustice humaine, vous voyez ? Mais à un moment donné, quand on est né de nouveau, on n'est pas surpris par l'injustice humaine, parce qu'on compte sur Dieu, quelque part. Eh bien, lui, il y a un passage qu'il n'a pas, un cap qu'il n'a pas passé. Je ne sais pas, je vais dire, il n'a pas donné son cœur au Seigneur, je n'en sais rien, peu importe. Mais vous voyez, des fois, c'est dans des détails comme ça qu'on sait. Ou par exemple, quelqu'un qui dit, moi, je ne pardonne pas. Ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister. C'est dur. On est confronté à une situation, mais Dieu ne nous lâchera pas tant qu'on n'aura pas pardonné. Allons vite pour pardonner. On gagnera du temps. C'est un conseil, là, personnel. Voilà. On ne s'accroche pas à ça. On a connu le Seigneur. Il a donné sa vie pour nous. Il nous a pardonné, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est toute la Bible qui est résumée dans ce verset. Chaque fois qu'on a ce genre de doute, on devrait se rappeler de ça. Si Dieu a donné son Fils, on peut pardonner, hein. Par contre, le Seigneur connaît nos afflictions. Il sait que c'est difficile. Mais il est avec nous. Faisons confiance. Il est avec nous. Je ne sais pas pourquoi, c'est une parenthèse, c'est écrit nulle part, mais ça doit parler peut-être à quelqu'un. En tout cas, si vous l'avez compris pour ça, on peut prier. On peut avoir du mal. Ça, ce n'est pas un péché. Mais s'entêter en disant « non, je ne pardonnerai pas », ça, c'est un péché. Ce n'est pas la même chose. Voilà, je referme la parenthèse que je n'avais pas ouverte d'ailleurs. Donc. Voilà. Donc notre mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, parce que c'est le seul moyen que des personnes viennent au Seigneur. Vous voyez ? Ça aussi. Alors qu'on trouve des moyens différents dans l'Église, ça c'est bien. Je veux dire, c'est chouette. Hein ? Il y a Alpha, puis ça continue, Alpha, puis ça fonctionne. La dernière fois, on a fait l'accueil des nouveaux. Ben, quasiment, sans exagérer, 90% c'était des gens qui venaient d'Alpha. Donc ça marche, ça fonctionne. On peut faire des activités, on peut inviter des gens, ça fonctionne. Main tendue aux étudiants, ça fonctionne. La soirée Chosen, ça fonctionne. Chaque fois que quelqu'un a une idée, c'est toujours dans le but d'annoncer la parole de Dieu. C'est merveilleux. Donc si vous avez des idées, faites-les savoir, faites-les connaître. Hein ? Pardon ? L'accueil café. Hein ? Ça, c'est la vie collective de l'Église. Vous voyez ? Mais il y a aussi, si j'ose dire, on va l'appeler comme ça, l'Église individuelle, chacun. Nos voisins, nos amis, dans la vie de tous les jours. On peut marquer la différence, tout simplement. Le meilleur test, c'est la voiture. Alors là, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Là, on est... Enfin, pas tous, hein, mais des fois, on n'est pas bon, quoi. Terme de témoignage. Hein. Ouais. Moi, dimanche dernier, je suis venu au culte. Je n'étais pas bien réveillé, et puis je suis venu en scooter. Et puis... non, mais je n'étais vraiment pas réveillé, parce que regardez bien. J'entends une sirène. Et je descendais le Jean Jaurès, et je regardais... de l'autre côté, pour voir s'il y avait un truc ou quoi. Elle était derrière moi, en fait. Mais c'était pour moi. Donc, ils me font garer. Non, mais franchement. Et il me dit, vous savez pas ce que c'est, les stops ? Ah bon ? J'ai dit, mais quel stop ? En plus, moi, je suis idiot. D'entrée, je réponds comme ça. Quel stop ? Alors, il me dit, oui, devant l'impérator et devant l'autre, un stop, ça se marque. Je lui dis, il n'y a personne, ça va. Bon. Faut que je progresse. Et après, il me dit vos papiers. Ah, oh, j'ai changé de blouson, j'ai rien. Il m'a dit bon, retournez chez vous. Je suis retourné. Bon, au final, ils ont été sympas. Mais moi, en repartant chez moi, je me suis dit mais il faut que je change, c'est pas possible. Déjà, j'aurais dû dire excusez-moi. Enfin, pas excusez-moi, mais enfin, si, oui, remarque, oui. Enfin, un truc, en tout cas. Mais quand ils m'ont dit les stops, alors là, mais moi, je tombais des nues, je ne les voyais pas, en fait, ces stops. Non, parce qu'il m'a dit, il faut vous arrêter, il faut que le pied pose par terre. Non, ça va. Bon. Mais ce matin, je suis venu en scooter, j'ai repris les deux mêmes stops. Je me suis dit, s'ils sont là, il vaut mieux que je marque le stop. Parce que le témoignage, là, franchement, le témoignage, là, il était zéro. Hein. Donc, voilà. Donc, vous voyez, moi, je dois vraiment progresser dans cette dimension-là. Hein? Voilà. Alors, j'espère que je ne vous ai pas troublé ce matin. Ou peut-être, j'espère un peu, quand même. Alors, certaines, peut-être, se disent, mais pétard, Seigneur, mais comment? Moi, je suis incapable de témoigner. Je suis incapable. Et moi, je vous réponds, tant mieux. Tant mieux. Parce que si vous étiez capable... Si on l'était, le Seigneur ne nous confierait peut-être pas grand-chose, parce que c'est le Seigneur qui fait en nous les choses. Donc ne cherchez pas votre capacité, cherchez le Seigneur. Ce n'est pas la même chose. Lui, il vous permettra. Enfin, je ne vais pas raconter toute ma vie, mais moi, un jour, je me suis retrouvé à 7, et puis on m'a dit, eh ben, allez, annonce la parole de Dieu, là, au milieu des gens qui passent. Vous croyez que j'avais la capacité? Pas du tout. Hein. Intérieurement, j'avais qu'une envie, hein, m'enfuir. Puis on le fait, et puis Dieu est là, et Dieu nous aide. C'est clair, hein, ça marche. Hein. Donc, que faire? Ben, moi, je dirais prions, et on verra que le Seigneur amènera des personnes. Des personnes qui auront soif d'un sauveur. Et on sera surpris. Hein. On sera surpris nous-mêmes. Voilà. On annoncera la bonne nouvelle, parce que c'est notre mission. Hein. Combien il y aura des conversions ? En annonçant la bonne nouvelle. On a une équipe le samedi, le vendredi, hein, au Carme, mais peut-être qu'ils aimeraient avoir d'autres personnes qui les rejoignent, d'autres personnes que... Voilà, parce qu'ils annoncent la parole de Dieu, ils annoncent le royaume, et des gens sont touchés. Il n'y aura pas d'autre moyen que des gens se convertissent. Voilà. Hein, puisque Jésus, il l'a dit, hein, des pierres, s'il veut, il en fait des chrétiens. Quoi. Donc, il a besoin de nous. L'apôtre Pierre, il dit que c'est dans notre fait, Dieu nous a rendus responsables de cela. Il pourrait convertir le monde en un instant. Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il a besoin de chacun de nous. C'est étrange, hein, mais c'est comme ça. C'est ce qu'il nous a dit. Hein, voilà. La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, chaque fois que vous témoignez, vous ouvrez la porte à ce qu'une personne reçoive la foi. Voilà. Et en plus, un autre avantage, et ça, je pense que vous l'avez tous vécu, quand on témoigne, c'est marrant, mais nos soucis, notre vie, elle devient plus légère. Et quand quelqu'un se convertit suite à nos paroles, alors il ne s'agit pas de se dire « Waouh, on a été génial !» Évidemment. Mais ça fait plaisir quand même. Et c'est bon, c'est bon. Tu parles à quelqu'un, il se convertit, c'est un miracle. Et ça nous fait du bien. Hein. À titre personnel, moi je crois que même si on sait que c'est la grâce de Dieu, on va être renouvelé, on va être encouragé, on va témoigner encore plus. Parce que notre foi sera confortée. Notre foi a besoin de se confronter. Notre foi a besoin de troubler. Les gens. J'allais dire c'est une règle, mais oui, c'est une règle. Alors, si vous trouvez ce matin que votre vie chrétienne est fade, ça arrive, hein, on a des bons moments dans la vie et des mauvais moments, ou molles, pas très excitantes au final. Hein. Annoncez l'évangile. C'est le meilleur des remèdes. Il n'y en a pas de meilleur. Il n'y en a pas de meilleur. Annoncez l'évangile, vous ferez peut-être jeter par la personne. Vous direz, waouh, comme l'apôtre Paul, je suis rejeté. Puis bon, on est au 21e siècle, bon, logiquement, il ne devrait pas vous lapider. Logiquement, on ne sait jamais, hein, on peut toujours tomber sur des gens motivés. Mais c'est une super expérience, le rejet. Parce qu'au milieu de, à un moment donné, il y aura l'acceptation. Quelqu'un acceptera le Seigneur Jésus. Et ça, ça va vous faire un bien fou, un bien incroyable. Hein? Quand? Non, non, mais je n'ai pas compris. Oui. Oui. Oh, ben. Monsieur, Voilà, ça, je... Exactement. C'est bon. Voilà. Et tu persévères. Continue. Voilà, continue. Et puis peut-être tu vas vivre jusqu'à 100 ans et que tu verras le Seigneur. Qu'est-ce qu'on en sait ? Qu'est-ce qu'on en sait ? Faisons confiance. Hein ? Voilà. En conclusion, comme Paul, annonçons l'évangile. On risque de troubler, soit un trouble à salut, soit un rejet par la personne. Hein ? On risque de voir des miracles. Ça, c'est génial aussi, qui accompagnent l'évangile. Et c'est toujours dans un but, amener d'autres personnes à Christ, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. C'est ça le projet de nos vies. Donc voilà. Je vous invite à prier. On va prier. Et Fred va revenir. On va faire la Sainte Cène. Et après, il y a des personnes qui ont demandé l'onction d'huile. Donc, pendant la Sainte Cène ou juste après, ça c'est. On fera l'onction d'huile. Ou s'il y a des personnes ce matin qui sont touchées par ce message, on peut prier pour vous.